De l'événement sans fin, on est passé à la quotidienneté de l'anormale, à l'inquiétude permanente, puis à la nécessité d'apprendre à vivre dans l'incertitude. Bonjour Michel Agier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes anthropologue, ethnologue, chercheur à l'Institut de Recherche pour le Développement, directeur d'études à l'EHESS. Vous avez beaucoup travaillé en Amérique latine, en Colombie, au Brésil, sur le continent africain également. Vous avez travaillé sur l'étranger, les frontières, les camps de migrants. Et avec cette pandémie, vous avez travaillé ici, à Paris. Une expérience qui donne ce livre, publié aux éditions Premier Parallèle, « Vivre avec des épouvantails, le monde, les corps, la peur ». La phrase que je citais est tirée de cet ouvrage, « Nécessité d'apprendre à vivre dans l'incertitude ». C'est donc là que nous en sommes. On voit bien que ce deuxième confinement n'a rien à voir avec le premier, pas seulement à cause des mesures qui sont prises, pour certaines différentes, mais aussi parce que nous le vivons différemment.
Oui, nous avons commencé à intégrer l'exception dans la vie ordinaire. Donc du coup, ça n'est plus tout à fait une exception. Et c'est peut-être le début d'un changement profond. Je fais l'hypothèse, comme d'autres, mais je la fais et j'essaye de l'argumenter, que nous vivons un moment historique. C'est-à-dire ce moment, il est dans le fait que certains ont dit « la vie passe par-dessus tout ». Dans le monde entier, sur toute la planète, nous avons eu ce qu'on pourrait appeler un tout biopolitique, c'est-à-dire la politique de la vie, la sauvegarde de la vie a été affichée au moins, je ne pense pas qu'elle a été partout et également mise en pratique, loin de là, mais a été affichée comme ce qui était commun. Ça, simplement, cet élément-là, cet événement-là, en soi, c'est un moment historique. Alors, plus ou moins suivi, Donald Trump, dont on parle beaucoup en ce moment, ou Bolsonaro au Brésil, sont des gens de pouvoir qui n'appliquent pas leur pouvoir d'exception. Et dans ce cas, ce sont les gens eux-mêmes, les premiers concernés, les citoyens, éventuellement sans État qui les protège, qui ont organisé leur propre protection. Et donc cette problématique, on va dire très généralement la problématique de santé publique, elle est devenue quelque chose de commun, pas également partagé, mais une problématique commune qui s'est imposée à l'échelle planétaire. Et ça, je crois que cette conscience planétaire que nous avons eue à cette occasion, c'est aussi en soi un événement dont il restera des traces, évidemment, je ne peux pas dire plus que les autres lesquels, mais il en restera évidemment des traces.
Vivre dans l'incertitude, vivre avec le virus, comme on entend beaucoup, c'est par exemple constater, Michel Agier, que pour ce deuxième confinement, il y a plus de protestations, qu'il n'y a plus d'applaudissements, qu'il y a des enfants masqués, mais qui vont à l'école. C'est tout ça, vivre avec, c'est tout ça, commencer à s'habituer.
C'est l'exception qui est revenue dans l'ordinaire, c'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, on a pu penser à un moment donné que cette dimension de la vie biologique, pouvait dominer toutes les autres et nous a fait accepter à un moment donné, ça a été souvent dit, des mesures sanitaires sécuritaires. S'enfermer chez soi, rester chez vous, se rester chez vous très fort. Nous l'avons accepté et partagé. Dans une autre circonstance, il y aurait eu des protestations. Eh bien, dans le deuxième moment, il y a des protestations.
Il y en a.
Pourquoi ? Eh bien, parce que, à la fois, cette exception est rentrée dans l'ordinaire comme quelque chose qui n'est plus tout à fait exceptionnel, donc, et la politique revient. Et quand je dis la politique, je n'ai aucun jugement sur quel type ou autre de protection, c'est simplement les prises de parole reviennent et on se rend compte que tout peut se négocier, même la manière de participer à cette protection collective. Et c'est vrai que dans un pays démocratique, je trouve tout à fait logique que toutes les mesures qui sont des mesures qui prennent un caractère sécuritaire fassent l'objet de protestations, de débats quand c'est possible. On peut regretter qu'on manque de lieux de débat actuellement sur toutes les mesures qui sont prises. Souvent, au nom de l'urgence, ce que j'ai souvent entendu et que je rappelle dans l'ouvrage sur mes terrains que vous mentionniez, humanitaires, par exemple, où au nom de l'urgence on fait accepter énormément de choses aux personnes qui restent des personnes muettes. Et là, les personnes ne restent pas muettes.
Et oui, justement, dans ce livre, donc on va en parler, vous parlez beaucoup de la peur, des peurs, et vous dites qu'en l'occurrence, la peur de consentir à des pertes de liberté est une bonne peur, et qu'on ferait bien de la voir. Quand vous écrivez ça, vous êtes il y a quelques mois, là justement, ça c'est vraiment un changement, c'est-à-dire que là, les débats sur justement nos libertés, ça existe véritablement maintenant.
Je l'exprime, vous mentionnez un moment où, comme plusieurs endroits dans le livre, j'exprime aussi mes émotions et mes craintes et mes propres peurs. Et la peur du totalitarisme, pour moi, elle est très forte. C'est-à-dire que il nous faut toujours rester vigilants, je crois. Et là, je parle comme citoyen autant que comme chercheur en sciences sociales. Il nous faut toujours rester vigilants à équilibrer sans arrêt la sécurité et la liberté. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre parce que le tout sécuritaire finit par nous écraser dans nos libertés, dans notre citoyenneté. Donc il faut forcément moduler, il faut forcément rectifier ça avec de la liberté. Je pense que la crainte ou la peur du totalitarisme s'appuie à la fois sur une peur existentielle fondamentale qui est la peur de la violence, la peur de la mort, mais aussi sur une peur, je dirais, historique des humains dans l'histoire et des expériences tragique et terrible du totalitarisme.
Alors finalement, à Paris, comme vous pouvez le faire ailleurs, en anthropologue que vous êtes, vous avez tenté pour ce livre, dans ce moment, de sortir de vous, tout en étant effectivement très honnête sur le fait que vous êtes vous et que forcément vous partez de vos propres ressentis. Finalement, justement, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui est au cœur de ce que nous vivons en ce moment ? C'est-à-dire que nous avons la preuve de notre interdépendance et en même temps nos conditions de vie, nos peurs, peut-être, font rétrécir notre monde et nous replient sur nous-mêmes. Et donc, cet exercice de décentrement devient compliqué, alors qu'il serait sans doute nécessaire, particulièrement.
Oui, tout à fait. Le sortir de soi, je pars de cet exercice de l'anthropologue. L'anthropologie, le premier pas, c'est sortir de soi pour s'intéresser au monde. Et là, effectivement, je me suis trouvé coincé dans mon appartement du 19e arrondissement et je me suis rendu compte que, eh bien, c'était pas seulement pour l'anthropologue, c'est pour les humains en général. L'enfermement est ce qui aboutit progressivement à la disparition de notre vie sociale, de notre vie commune. J'en appelle à ce terme classique de l'anthropologie, j'en appelle à notre vie commune. Et on ne peut pas concevoir la vie nue, la vie biologique de chacun sans la vie sociale, c'est-à-dire sans la vie commune. Nous avons toujours besoin des autres. L'exercice du confinement laissera beaucoup de traces, je pense, laissera des souvenirs, laissera des caricatures, laissera des romans ou des récits. Mais s'il y a un point qui me semble important, c'est que alors que nous avons pu être un petit peu fascinés au début par cet enfermement sur soi qui nous était demandé, imposé, auquel nous avons largement acquiescé et participé, dans un deuxième temps, ou progressivement d'abord dans le premier confinement, puis maintenant dans un deuxième temps, nous nous rendons compte que ça n'est pas possible, que s'il faut que ce soit négocié, c'est-à-dire il ne faut pas que ce soit au préjudice de la vie commune, de la vie sociale. Par exemple, autoriser les gens à travailler et ne pas les autoriser à se rencontrer et faire d'autres choses, c'est un traitement, je crois, qui altère profondément notre besoin de vie commune.
Oui, et en même temps, c'est très compliqué, Michel Agier, parce que vous avez réfléchi beaucoup à travailler sur la frontière, les frontières. Vous dites qu'avec cette pandémie, la première, c'est le corps, la dernière, c'est la terre. Nous vivons un événement mondial, nous dépendons les uns des autres, et en même temps, le danger vient potentiellement des autres. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Comment on trouve un équilibre possible, en fait ?
Ce qui est intéressant, là, je me suis intéressé d'une certaine façon à une comparaison un peu méthodologique, si on veut, entre l'épidémiologie et l'anthropologie. C'est-à-dire que ce virus que nous ne voyons pas, ce non-être, hein, comme je l'appelle, cette ontologie en creux du virus, se développe de corps en corps, de corps à corps. Il faut qu'il y ait un contact, qu'il faut un toucher, des postillons, je ne sais quoi. Et Il n'a pas d'autres frontières que celles des corps jusqu'à la dernière frontière de l'humain qui est à ce jour la frontière de la planète tout entière. Donc si on regarde les différentes étapes de cette circulation, ben on a les relations d'interconnaissance qui est un classique de l'anthropologie, la vie sociale dans des petites unités, la vie sociale dans des plus grandes unités, les relations de premier ordre, les relations de second ordre, les relations de troisième ordre, c'est-à-dire tout ce système de relations sociales dans lequel nous vivons est précisément celui à travers lequel circule le virus. Ce que j'ai voulu dire effectivement en étant depuis plusieurs années intéressé à la question des frontières pour tout un tas de domaines, c'est précisément que la frontière nationale, dans ce cas-là, n'a pas de sens. Elle a un sens parce que c'est le cadre de nos politiques publiques, c'est tout. Mais entre la frontière de mes relations, le cluster, le premier cluster, ce terme fantastique qui maintenant est entré dans le langage
commun. Foyer de contamination, on peut dire.
Voilà, le cluster de contamination, c'est-à-dire la famille et autour de la famille, le travail, les amis, etc. Donc nous avons différents lieux de sociabilité. Sans doute, et c'était le cas en Chine avec Wuhan, la frontière qui a été privilégiée, c'est la frontière de la ville. Ça, nous n'y avons pas pensé assez tôt, peut-être, en France. Et donc, les opérations de confinement, finalement, ont été des solutions par défaut à notre incapacité à traiter la frontière individuelle des corps, ce vers quoi on revient maintenant avec l'étude par des équipes ad hoc des cas contacts, des différentes formes de contamination, pour essayer d'aller au plus près finalement de la contamination, c'est-à-dire le corps à corps, si on peut dire.
Le monde, les corps, la peur, c'est votre sous-titre. Nous poursuivrons après 8h30, mais je voudrais qu'on dise un mot donc de la peur. Parce que ça prend beaucoup de place aussi dans votre livre. Il y en a plusieurs, vous l'expliquez, mais il y en a une en fait qui vient de loin. C'est la peur cosmique. C'est la prise de conscience de notre vulnérabilité. C'est aussi ça ce que nous vivons en ce moment.
C'est ça qui est troublant et qui m'a amené progressivement dans cette réflexion, non pas au début de l'ouvrage, mais petit à petit, à me dire mais finalement tout tourne autour de la peur. Et nous sommes dans un grand moment de peur, avec une peur diffuse, une peur latente, sans doute des peurs qui sont là depuis longtemps, répandues, qui se traduisent individuellement ou collectivement. Et cette peur cosmique est revenue, pourquoi ? Parce qu'elle dit la vulnérabilité de l'humain devant la puissance du cosmos. Et là, c'est la puissance du cosmos s'est exprimée dans un être le plus minuscule possible, celui que nous ne voyons même pas. Et c'est pour ça que je dis à d'autres reprises que nous n'avons rien vu. Nous ne voyons pas de quoi il s'agit. Nous en voyons simplement les effets. Nous ne voyons pas ce non-être du virus. Et pourtant, il exprime ce mystère de la nature, on va dire, du cosmos, les forêts, le monde animal, les eaux, les montagnes, les cieux et l'au-delà de notre propre planète. Donc tout ce mystère-là nous rend minimes et je crois que cette conscience de ce caractère minuscule de l'humain et de cette vulnérabilité profonde est aussi ce qui nous réunit tous sur la planète, quelle que soit notre couleur de peau, notre langue, la langue que nous parlons et le pays où nous habitons.
Vivre avec des épouvantails, le monde, les corps, la peur, c'est votre livre Michel Agier. Nous vous retrouvons dans quelques minutes, juste après la revue de presse des idées. Michel Agier, vous êtes toujours avec nous. Voyez-vous, dans tout cela aussi, dans ce succès du complotisme, une expression de la peur?
Oui, je pense que comme la rumeur, qui serait le grand paradigme dans lequel peut-être on peut placer cette forme hybride qu'on appelle le complotisme, je pense que c'est une manière de conjurer ou de tenter de conjurer la peur. C'est peut-être une déviation de l'imaginaire de la peur. C'est une tentative de comprendre ce qui arrive, ce qui se passe, et donc finalement de se rassurer face à quelque chose qui est exceptionnel, effrayant, en trouvant...
Et en même temps invisible, ce que vous disiez tout à l'heure.
En même temps invisible et donc mystérieux, évidemment, en trouvant une explication. Et là, on a aussi ce qui maintenant est assez fréquent, c'est la logique de l'irrationnel, la raison de l'irrationnel, la logique rationnelle de l'irrationnel. Comme la rumeur en général, les faits rapportés indirectement et donc... faux ou en partie faux, et on a des événements extraordinaires, et on a aussi, c'est important, les doutes des scientifiques. Et ça, pour les scientifiques, c'est intéressant, parce que la science n'est pas une vérité qui tombe du ciel, bien évidemment, et elle vient toujours de débats, elle vient toujours de polémiques même, et parfois des très longs débats parmi les scientifiques. On le dit souvent sur les sciences sociales, et bien là on le voit aussi sur les sciences biologiques, médicales, etc. Pour arriver à une certaine vérité à un moment donné scientifique, il faut qu'il y ait des discussions, il faut qu'il y ait des arguments qui s'échangent. Cette science-là, elle est devenue un peu plus publique, ou je dirais plutôt médiatique, parce qu'on n'est quand même pas encore tout à fait dans une science qui serait publique, où tout le monde a effectivement le temps de s'exprimer assez longuement avec des arguments, et on est plutôt dans les anathèmes, les provocations, les voire les insultes, etc., etc. Donc c'est vrai que on est aussi dans une situation aujourd'hui où la science ne rassure plus. Le savoir contre la peur qu'on a tenu longtemps comme un élément qui pouvait nous aider à nous moderniser, le savoir peut vaincre la peur. Eh bien non, puisque le savoir a ses propres doutes, et donc ça peut ajouter de la peur, et on le voit bien dans ce fatras finalement qui est le complotisme.
Et c'est une bonne question justement pour les chercheurs que vous êtes, voilà, parce que vous écrivez dans ce livre aussi, la peur est une force de l'imaginaire que ni la science ni la politique ne peuvent durablement résoudre, ni a fortiori supprimer. C'est bien ce qui rend les théories complotistes difficiles à combattre. Et Ilan Malka disait, voilà, comment on y répond? Ben oui, comment on y répond, Michel Agier, si on ne peut pas justement être sur le même plan quand on répond avec du rationnel?
Je pense qu'il faut déconstruire, il faut décomposer un petit peu l'exemple qui a été donné à l'instant avec le travail qu'a fait Le Monde, au point par point, répondre aux différents éléments de ce film. Il faut tenir compte aussi qu'on est dans un monde où les écrans en général, l'internet, les chaînes d'info continues, etc., nous abreuvent d'images et donc altèrent notre imaginaire. L'imaginaire ne peut plus fonctionner, si je puis dire, directement en rapport à la réalité. Il fonctionne en fonction d'autres images qui sont elles-mêmes des représentations parfois fictionnelles de la réalité, où on ne fait plus la différence entre la fiction et la réalité. Et tout ça a lieu à une échelle et à une vitesse incroyable, puisque aussi vite que le virus, si on peut dire, le virus complotiste se répand très très rapidement sur la planète. Et donc là, ça demande, je pense, une mobilisation des scientifiques, chacun dans leur domaine, pour répondre point par point. Je pense que les sciences sociales peuvent être mobilisées autant que les sciences biologiques, l'épidémiologie, la médecine, etc. Et puis, ce que je disais, laissons la peur dans l'imaginaire, c'est-à-dire inventons d'autres formes de solutions de la peur. C'est pour ça que je suis allé chercher, non pas pour en faire l'apologie, mais pour constater que ça a déjà existé et que ça existe encore ailleurs, cette image des épouvantes et des épouvantails.
Et que vous êtes allé chercher aussi, dans la tradition de la culture populaire, du carnaval, du burlesque, de la fête. Peut-être en a-t-on encore plus besoin quand les peurs sont importantes, et en même temps, la fête n'est jamais aussi mal vue que quand les peurs sont importantes. En plus, en ce moment, elle est dangereuse.
Vous savez qu'au Moyen-Âge, dont je parle à propos de ces cultures populaires de la peur, en plein Moyen-Âge, où les différents cycles de peste et de famine se sont répandus, ont consacré un tiers de la vie sur une année à la fête populaire, au carnaval, aux soirées où on donnait, où on racontait des légendes, où on racontait des histoires de monstres, d'esprits, etc., où on inventait des masques et des personnages. Aujourd'hui, le masque de Trump a beaucoup de succès dans les carnavals, mais ça n'est pas aussi répandu que ce qu'on pouvait avoir à cette époque-là, ou ce que j'ai pu voir sur d'autres terrains avec certaines figurations comme ça d'épouvante qui font peur et dont on se moque en même temps.
Et en même temps, je reviens justement à ces peurs. Nous parlions tout à l'heure des libertés. Évidemment, il faut dire, il faut prendre en compte aussi, Michel Agier, le fait qu'à cette crise sanitaire, il y a la menace terroriste. Et nous revoilà aux frontières avec hier encore les ministres de l'Intérieur de l'UE qui ont appelé à la suite des derniers attentats à renforcer la sécurité de l'espace Schengen et les frontières extérieures de l'UE. Terrorisme et immigration désormais dans les discours politiques sont de plus en plus souvent liés par de plus en plus de monde. Et en même temps, ce discours, il vise précisément à répondre à des peurs, à une peur, la peur des attentats qui est aussi une peur que l'on peut comprendre, en tout cas qu'il faut prendre en compte.
Terrorisme et migration, mais aussi pandémie et migration. C'est-à-dire on a attribué aussi aux migrants la peur. Enfin, on leur a plaqué aussi cette peur de la contamination en disant attention. Ceux qui viennent de l'étranger, donc les migrants, alors que cette figure des migrants représente une minuscule part de l'ensemble des non-nationaux qui circulent, ou qui circulaient en tout cas jusqu'à présent en France ou dans n'importe quel pays. Enfin, la part des non-nationales est bien plus importante que cette part minime de migrants proprement dit ou de réfugiés, et donc la peur de la contamination s'est reportée sur eux de la même façon que la peur du terrorisme s'est reportée sur eux. Je pense que on est dans une situation effectivement où les faits eux-mêmes contredisent cette association, puisque les gens qui partent, qui fuient leur pays, bah précisément ils fuient ces situations-là. Évidemment, sur 10 000 migrants et réfugiés, on en aura un qui passera peut-être même pas comme migrant et réfugié. D'ailleurs, certains sont passés en un jour et étaient là le lendemain sans être passés par les circuits de la migration. D'autres étaient là depuis longtemps. D'autres personnes sont nées en France, etc. Donc cette association entre le terrorisme et la migration est contredite par les faits, mais elle recoupe une autre peur qui est cette peur de l'extérieur, qui est cette peur de l'étranger, qui est récurrente depuis. Je pense que c'est quelque chose qui est existentiel, qui a un caractère anthropologique, c'est-à-dire que l'inconnu fait peur, le trou noir fait peur, et donc tout ce qui vient de l'extérieur a ce caractère-là de la peur.
Et en même temps, voilà, nous étions hier le 13 novembre, il y a aussi les faits, ces attentats qui sont arrivés, qui sont encore arrivés aussi ces dernières semaines, et une peur que malgré tout on peut entendre, qu'on doit sans doute entendre, et à laquelle il faut aussi trouver des moyens de répondre.
Bien sûr, bien sûr. Mais on s'est retrouvé avec, si vous voulez, je pense que là c'est un débat qui nous mènerait très loin sur les nécessaires mesures de police, la coopération internationale entre les polices et les autres contrôles des circuits justement liés à la grande délinquance internationale et liés au terrorisme. C'est un autre débat, je pense que les policiers vous diraient sûrement ça très bien. C'est un autre débat que celui de la fermeture des frontières nationales, qui est un peu toujours le leitmotiv de nos gouvernants, qui ont même dit, on l'a dit à propos du mur entre le Mexique et les États-Unis. Un sénateur républicain avait dit « Oui, je sais bien que ça sert à rien, mais ça rassure ». C'est-à-dire la conviction qu'on fait quelque chose, non pas parce que c'est utile, mais parce qu'on veut répondre à la peur, on veut d'une certaine façon aussi entretenir la peur, parce que c'est comme si le gouvernement de la peur avait un dialogue avec la peur.
Michel Agier, vous restez avec nous pour le dernier quart d'heure des matins du samedi, puisqu'il est 9h moins le quart.